L'écrivain espagnol Antonio Altarriba était présent aux correspondances de Manosque.
C'est un des écrivains qui nous aura marqué lors de cette édition 2011. Vous avez déjà entendu hier une partie de l'interview qu'Antonio Altarriba m'a accordée, une partie de l'interview qui était consacrée au roman graphique. Et c'est d'un roman graphique dont il est venu parler à Manosque, L'art de voler, qu'il a sorti avec son complice dessinateur Kim. L'art de voler, c'est tout simplement l'histoire de son père qui a vécu en Espagne dans une famille très humble, une famille au début du XXe siècle, une famille paysanne. Un père qui devient anarchiste, puis qui sera républicain, qui sera ensuite exilé après la guerre civile en France, puis de retour en Espagne, il s'accommodera, entre guillemets, du franquisme, et puis jusqu'au dernier jour où, après avoir vécu quelque temps dans un hospice de vieillards, il monte très discrètement jusqu'au quatrième étage, et il s'envole cette fois-ci du quatrième étage dans une scène un petit peu particulière. C'est une scène qui, dira Antonio Altarriba, dure simplement quelques secondes, mais qui a pris toute une vie, 90 ans, pour arriver à cette fin tragique, donc le suicide de son père. Je vous propose d'écouter Antonio Altarriba, qui revient sur l'écriture de son roman, et je signale que L'art de voler est paru aux éditions de Noël Graphique. C'est un roman graphique que je vous conseille évidemment, et que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Antonio Altarriba, qui était présent à Manosque pendant les correspondances. Antonio Altarriba, vous êtes présent aux correspondances de Manosque. Vous avez écrit L'art de voler, c'est un roman graphique. En fait, c'est pas l'art de voler, c'est plutôt une plongée dans l'Espagne du XXe siècle.
Oui, c'est l'histoire du XXe siècle qui défile, c'est l'histoire de la vie de mon père, mais je crois qu'au-delà des événements historiques qui sont représentés, je crois qu'il y a une pulsion plus profonde et je dirais plus universelle. Mon père, je crois qu'il a vécu cette double pulsion du désir de vouloir faire toute une série de choses, d'atteindre toute une série de buts et des difficultés pour y réussir. Et finalement, on pourrait dire que la vie de mon père, comme la vie de beaucoup de gens dans ce monde, c'est un essai continuel d'atteindre des objectifs qui sont situés très haut, d'atteindre un idéal, et la frustration qui comporte le fait de ne pas l'atteindre. Alors, c'est dans ces va-et-vient entre ce que l'on veut et ce que finalement on a, qui se situe une bonne partie de nos existences, indépendamment que cela se passe en Espagne ou ailleurs.
C'est vraiment une histoire autobiographique, c'est la vie de votre père que vous racontez ?
C'est la vie, c'est curieux parce que c'est la vie de mon père que je raconte et elle est en même temps autobiographique dans la mesure où je prends la voix de mon père, je raconte l'histoire de mon père à la première personne. C'était très difficile pour moi, me situer à l'extérieur de mon père à l'heure de parler de lui. J'avais vécu avec lui d'une façon très étroite, toute ma vie et surtout les dernières années de la sienne et réellement il m'était presque impossible de parler de lui à la troisième personne. C'est pourquoi c'est autobiographique d'un côté, parce que c'est raconté à la première personne, mais c'est l'histoire de mon père. Il est vrai que je rajoutais une série d'éléments fictionnels qui étaient nécessaires, je pense, pour donner une certaine fluidité à la narration. Par exemple, mon père n'a pas chaussé les espadrilles d'Urruti. C'est une fiction que j'apporte. Il en parlait beaucoup. des espadrilles de Durruti qui sont presque un mythe chez les anarchistes espagnols de l'époque, parce que Durruti, c'était le leader anarchiste honnête par excellence. La preuve, c'est que quand il a été tué dans des circonstances qui restent encore obscures en 36, à ce qu'il paraît, on a découvert qu'il n'avait comme possession que de vieilles espadrilles, quelqu'un qui était très influent politiquement, etc. Donc la preuve de l'honnêteté de cet homme, de la sincérité de l'idéal de Durruti, était là, dans ces espadrilles. Et j'ai fait que mon père, à travers toute une série de circonstances, arrive à chausser les espadrilles de Durruti. C'est un élément qui, symboliquement, je crois, est très fort et qui me permet de réunir presque tout un chapitre, le chapitre central de ce livre, qui a pour titre précisément les espadrilles de Durruti. Mais à part toute une série de détails qui sont là pour arrondir un peu l'histoire, c'est les faits réels que mon père a vécu.
Donc on suit sa vie en Espagne tout d'abord, avec une famille paysanne, donc le travail de la terre bien sûr, oui. L'amitié, des amitiés avec des adolescents de son âge, avec un drame terrible, oui. Un de ses amis qui se tue sur la route, oui. Et puis au fur et à mesure qu'avance l'histoire, l'anarchie, oui, on va dire l'esprit libertaire qui soufflait à cette période, la guerre civile terrible, l'exil, l'arrivée en France, puis le retour après en Espagne, une Espagne qui a terriblement changé, Franco est arrivé,
oui.
Et là, il va être obligé de s'adapter.
Oui, c'est ce retour en Espagne, c'est peut-être un des moments où, dans la rédaction du scénario, qui a été plus difficile pour moi, parce que je connaissais déjà l'histoire de mon père avant de me mettre à écrire presque par cœur, mais c'est pas la même chose d'entendre raconter une histoire que de s'y mettre dans la peau du protagoniste, de mon père dans ce cas, et essayer de comprendre tout ce qu'il a dû faire et souffrir. Alors, pourquoi, après 11 ans d'exil en France, en 1950, rentrer en Espagne ? Et pourquoi il a pris cette décision ? C'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à comprendre, parce que même si sa situation ici en France n'était pas terrible, puisqu'il était tout près d'ici, à Marseille, en train de faire le trafic de charbon dans le marché noir, etc. Rentrer en Espagne et vivre et souffrir toutes les manifestations omniprésentes du pouvoir franquiste, tous ces monuments, tous ces symboles qui remplissaient les rues, et à l'entrée, à l'issue de tous les villages de l'Espagne, il y avait les symboles de la Falange, qui était le parti fasciste, donc le joug et les flèches, des statues de Franco un peu partout, etc. Et c'est à ce moment-là, peut-être pour donner une idée de l'ambivalence d'une décision qui n'était pas très claire dans son esprit. Il avait la garantie qu'il n'allait pas souffrir de représailles, parce que le mari d'une cousine était garant, donc s'était chargé d'éliminer toute possibilité des persécutions. Mais quand même, travailler ces terres et en plus supporter cette signification constante du fascisme, de la victoire, cette glorification de ce qui a été présenté toujours, tant que Franco était vivant, comme une croisade contre le mal, qui représentait donc les idées plus ou moins gauchissantes ou socialisantes des républicains.
C'est aussi un moment où il y a un poids exceptionnel de l'Église qui est toujours présent, un petit peu moins peut-être en Espagne actuellement, le poids de l'armée aussi évidemment, bien sûr, comme dans tous les régimes totalitaires, la corruption à tous les étages.
Oui, c'est la présence de l'Église a été très importante. C'est l'Église d'ailleurs qui a légitimé déjà presque des premières années des premiers mois de la guerre civile la position de Franco. L'Église lui a il sait présenté, et il s'était marqué dans toutes les monnaies, Franco était caudillo d'Espagne par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait, l'Église a joué un rôle de légitimation de ce pouvoir très important. Les militaires, naturellement, c'était la force qui a soutenu le régime très clairement. Et naturellement, dans un régime de ces caractéristiques, sans possibilité de représentation démocratique, sans contrôle, la corruption était généralisée. Mais même dans les quartiers, c'est-à-dire que pour trouver un poste de travail, pour obtenir tout un tas de choses, il fallait avoir, pour ainsi dire, le point de vue positif de petits tyrans de quartier, parce qu'ils appartenaient aux syndicats franquistes, à la Falange, etc. Et c'était eux qui pouvait te permettre d'accéder à une pension, trouver un poste de travail, être fonctionnaire à un moment déterminé. Donc la corruption a été effectivement très très répandue. Et c'est dans ce monde que mon père a dû s'intégrer. C'est pourquoi à un moment déterminé, je dois représenter cette espèce de, je dirais, d'amputation idéologique. Parce que comment vivre et supporter tout cela, conservant les idées et une certaine dignité. Donc je le représente à un moment déterminé, mon père, comme dans une scène qui est plutôt symbolique, poursuivie par tous les symboles du franquisme, l'aigle franquiste, le joug et les flèches, etc. Et l'aigle franquiste lui arrache les yeux, et lui se tourne vers le lecteur, il dit « Ouf, finalement, je ne vois plus ». C'est-à-dire, ces yeux arrachés symboliquement, je crois, qui représentent ce qui a supposé pour mon père et pour beaucoup d'Espagnols cet exil intérieur. Des gens qui ont dû vivre, donc, sur leur propre cadavre idéologique. Comme des zombies, quoi. Donc, simplement essayant de mener une survie. Au milieu d'un régime qui ne les reconnaissait pas, tout au contraire, qui les renvoyait cette image de délinquants.
Et puis la dernière partie du roman, c'est une partie qui se déroule dans un asile, une maison de retraite où votre père va finir sa vie d'une manière un petit peu particulière. Vous allez nous en parler. Mais il y a des moments assez comiques dans cette partie avec notamment des camaraderies qui se tissent entre les pensionnaires de cette maison.
Oui, c'est Keane, le dessinateur, quand il parle de son expérience comme dessinateur, parce que c'est quand même un roman graphique qui de plus de 200 pages, donc il a investi beaucoup de temps pour dessiner toutes ces pages, 4 ans de travail, pas à temps complet, mais quand même il y a beaucoup d'heures. Alors il raconte, bon, j'avais déjà dessiné tout un tas comme ça de pages, et je me retrouve qu'il me reste encore tout ça de scénario. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'est-ce qui peut se passer dans une maison de vieux, dans une maison de retraite? Mais qu'est-ce qu'il y a à raconter? Et il dit, mais c'est la partie où je me suis le plus amusé parce que, effectivement, il y a beaucoup d'humour dans cette partie, dans cette dernière période de la vie. C'est un humour un peu noir parfois et un peu cynique, mais effectivement, je crois que il y a des personnages qui sont vrais d'ailleurs. Restituto existait réellement, ces personnages qui bricolaient, qui retrouvaient, qui cherchaient un peu partout, qui ramassaient dans la rue tout un tas de trucs pour se faire lui-même des souliers, etc. C'est tout un monde, le monde des résidences des troisième âge. Il reste une vie et il y a un côté ridicule et caricatural sur lequel j'ai insisté parce que il y a dans ces résidences un peu de notre mauvaise conscience de nous jeunes parce que nous voulons présenter ces refuges de vieux comme quelque chose de peut-être un peu trop idyllique, non? Donc les activités qu'ils doivent faire, la gymnastique, l'animation culturelle, etc. Ce sont des activités pour leur faire passer pour des gens qui ont encore l'amour de la vie, l'humour, l'entraîne, etc. Quand c'est réellement la déchéance de la vie, il y a cette contradiction très profonde entre la réalité des vieillards et l'image que ce genre de résidence veut projeter dans cette hypocrisie qui caractérise un peu cette période des années 80, de la démocratie de l'Espagne, etc., que se joue cette dernière partie qui enferme déjà le dénouement définitif de l'histoire.
Alors le dénouement, on va le dire, c'est votre père qui va monter un jour jusqu'au quatrième étage, sans se faire voir de personne dans la maison de retraite, oui. Qui va poser délicatement ses chaussons d'un côté, des chaussons qui ressemblent étrangement à des espadrilles d'ailleurs, oui. Et puis qui va se jeter dans le vide et ainsi finit sa vie. C'est comme ça que ça s'est passé?
C'est comme ça que ça s'est passé. Y a une vignette à la fin de l'introduction, à la troisième page, du livre, enfin de la troisième page déjà des pages illustrées, qui a été, je dirais, le point de départ émotionnel pour moi. Je crois que c'est dans une certaine façon cette image qui a déclenché le récit, tout le récit. Quand j'arrive à la maison de retraite après avoir reçu le coup de fil de la directrice qui m'a dit que mon père s'est jeté par la fenêtre et qu'il en est mort, j'arrive dans un état de choc, évidemment, le docteur m'explique comment ils sont localisés la fenêtre d'où il s'est jeté. Et il me dit qu'ils sont retrouvés la chaise qu'il a utilisée pour grimper jusqu'à la fenêtre, les chaussons à l'intérieur et la canne à l'extérieur. Et cette description, même quand je la répète ici dans cette interview, ça m'est remis à l'intérieur, ça a été, cette description peut-être un peu froide du docteur a été pour moi, paf, un coup, et je l'ai vu, et c'est cette image que je me représente même avec les rideaux, donc qui s'évalance un peu par les vents, etc., qui entre parce que la fenêtre est ouverte, etc. C'est cette image qui m'a hanté, je crois, et qui a déclenché en moi le récit.